Bonjour. D'abord, j'aimerais remercier Philippe pour à la fois m'avoir permis et aussi lancer le défi de faire une présentation sur Porno Holocauste de Joe D'Amato, qui est un metteur en scène qui est méconnu en dehors des cercles d'amateurs de série B. Joe D'Amato est un réalisateur prolifique qui s'est imposé comme l'une des figures de proue du cinéma d'exploitation italien propre aux années 70 et 80. Comme ses contemporains Lucio Fulci et Sergio Martino, il a principalement réalisé des commandes ayant permis d'aborder divers genres populaires. Plus de 200 longs-métrages figurent dans une filmographie vertigineuse qui inclut western, péplum, comédie, science-fiction post-apocalyptique, mais surtout drame érotique et film gore. D'Amato doit ainsi sa notoriété à la série Black Emmanuel, qui donne la vedette à sa muse Laura Gamzer, ainsi qu'à des œuvres reconnues pour leur violence graphique comme Anthropophagus et Bouillot Omega. Si la versatilité de sa production s'avère similaire à celle d'autres cinéastes transalpins, elle se démarque néanmoins par une particularité signalée par Sébastien Guéraud, qui nous dit « Les films de D'Amato recoupent systématiquement plusieurs genres dans un même long métrage. » En guise d'exemple, citons Caligula, la véritable histoire, qui teinte d'érotisme les conventions du drame historique, et Emmanuel en Amérique, qui, quant à lui, incorpore les images hyper-réalistes d'un faux snuff à un trailer policier. On l'aura compris, cette fusion de codes génériques accorde à D'Amato la possibilité d'enchaîner les nombreuses scènes débats sexuels à un point tel que le récit ne semble être qu'accessoire. Or, le critique de cinéma Jean-François Roger n'y perçoit pas une quelconque forme d'opportunisme voyeuriste. Au contraire, il considère cette hybridation comme l'essence même de la démarche artistique de l'auteur. Si Joe D'Amato, écrit-il dans un texte élogieux, peut être considéré comme l'exemple parfait du cinéma d'exploitation à l'état chimiquement pur, c'est parce que ses films s'adressent aux mauvaises pulsions d'un spectateur qui demande au cinéma non seulement des sensations fortes, mais aussi l'assouvissement d'un irrépressible désir de voir. Rien d'étonnant dès lors à ce que, parallèlement à son image d'auteur érotique, ce soit collé aussi celle d'un fabricant d'horreur gore. Voir les corps à nu, l'intérieur et l'extérieur, l'épiderme et les viscères, telle est la recherche du cinéma de Joe D'Amato. Sorti en salle italienne en 1981, Porno Holocauste s'inscrit de plein fouet dans ce projet et promet, par la simple évocation de son titre, un spectacle porteur de la D'Amato Stotch. Ce film fait également suite à un tournant majeur dans la carrière du réalisateur. Un an plus tôt, D'Amato signe avec Sesso Nero un long-métrage historique que Sébastien Guéraud décrit avec justesse comme le tout premier film 100% hard d'origine italienne à être tourné et distribué de manière officielle. Porno Holocauste lui succède tout en renouant avec plusieurs membres de sa distribution ainsi que son compositeur Nico Fidenco. Bénéficiaire d'un budget considérable, il situe son action dans les décors paradisiaques des Caraïbes. Ce recours à des tournages extérieurs d'un lieu tropical en fait un exemple emblématique de l'âge d'or du cinéma pornographique tel que défini par Eric Schaffer dans l'incontournable Porn Studies. De plus, cet attrait pour l'exotisme figure comme un héritage direct des Mondo Movies, ces documentaires sensationnalistes auxquels Joe D'Amato, selon Mario Deglio Bellamar, aurait récupéré l'esthétique. Parmi les effets que D'Amato emprunte au Mondo, nous dit-il, et qu'il utilise fréquemment dans la série Black Emmanuel, mais également dans Porno Holocauste, notons le zoom rapide, l'arrêt sur image, le montage choc et bien évidemment la caméra voyeuse. Des procédés techniques qui intègrent le récit dans un régime paradoxal, puisqu'il oscille constamment entre réalisme et fantasme. Pareil décalage provoque un choc chez le spectateur dès l'instant où Porno Holocauste confronte deux genres ayant respectivement codifié un type de représentation des corps, l'horreur et la pornographie. D'emblée, la prémisse familière du long-métrage évoque certains classiques de l'épouvante. Donc, un groupe de chercheurs est envoyé sur une île pour enquêter sur les séquelles de récents essais nucléaires. Ils font un constat alarmant une fois arrivés sur les lieux. La végétation a été affectée au point de métamorphoser des algues d'eau douce en plantes carnivores. Suite à d'éprouvantes mutations, des animaux atteignent des tailles disproportionnées. Les crabes sont devenus immenses. On devine très bien qu'ils sont juste allés à l'aquarium prendre des gros crabes et dire « Oh mon Dieu, des monstres! » Et un climat d'inquiétude va s'installer lorsqu'il devient apparent que des aborigènes sont eux-mêmes entrés en contact avec les radiations et que certains survivants rôdent toujours. On se croirait chez Roger Corman. si ce n'était du fait que D'Amato n'accorde que très peu d'importance à l'addition horrifique de son récit, du moins dans la première partie. Soyons francs, ces personnages s'intéressent beaucoup plus à l'anatomie qu'à l'écologie. Les allusions à leur mission demeurent minimes et surviennent lors d'échanges brefs entre deux séquences de fornication. Ces dernières, merci Internet pour ce joli collage, ces dernières s'avèrent nombreuses, pour ne pas dire généreuses, et ponctuent une trame narrative mince qui s'efface dès qu'elles apparaissent à l'écran. De toute évidence, D'Amato profite pleinement du nouveau statut de la pornographie dans son pays et cherche coûte que coûte à combler les attentes d'un public hétérosexuel. La nature des ébats simulés est d'ailleurs typique de ceux que l'on a l'habitude de croiser dans la forme dominante du genre. Porno Holocaust propose ainsi des scènes de fellation, de cunnilingus, de sodomie, de lesbianisme et de gangbang. Ces dernières séduisent par l'exhibition de corps athlétiques et sculpturaux, des corps désirables qui, en plus de correspondre à des canons de beauté établis, contrastent avec un spectre difforme qui, jusqu'à présent, demeure invisible. D'Amato entame le dernier acte de son film avec l'entrée en scène d'un individu qui épie nos héros depuis leur arrivée sur l'île. Victime de la radioactivité, ses traits monstrueux lui ont fait perdre toute trace d'humanité. Dès sa première apparition, il n'attire que dégoût et rejet. Il se voit également privé des plaisirs de la chair. En effet, le réalisateur ne capitalise pas sur l'inclusion de cette créature pour transformer son long-métrage en zombie porn si cher Antonio Dominguez Leva. Alors que l'hybridation des genres s'avère généralement harmonieuse chez D'Amato, elle s'exprime ici par une dualité si puissante qu'elle entraîne un important changement de régime. L'intrusion d'un corps abject dans la diégèse va faire en sorte que la dimension pornographique du long-métrage s'essouffle complètement. Par la suite, seule une scène de sexe nous est montrée dans ce qui est désormais un drame d'épouvante. On ne retrouve par exemple aucune trace d'érotisme dans les rapports que le mutant entretient avec les femmes. Voyant ses avances constamment rejetées, il se tourne alors vers la violence pour assouvir ses pulsions et sera ultimement puni par la mort. Selon Guéraud, D'Amato tente de faire de son monstre un être pathétique, lui-même victime de la fatalité. Porno Holocaust empêche donc les corps marginaux de connaître leur potentiel pornographique, puisqu'ils les cantonnent dans un genre où ils représentent toujours une menace et doivent constamment agir à titre de monstre. Comme c'est souvent le cas avec le cinéma d'exploitation, nous sommes ici confrontés à la problématique des intentions de l'auteur. D'Amato, lecteur de Foucault, pas sûr. Il n'en demeure pas moins que son long-métrage témoigne d'un puritanisme qui persiste dans le film d'horreur. Le défiguré Jason Voorhees n'a jamais connu l'épanouissement sexuel dans sa franchise officielle, ce qui serait tout le contraire en pornographie, en témoignent les parodies érotiques de Friday the 13th. Tel que l'affirme Linda Williams, « Porn videos are remarkably diverse as well, ranging from the rarefied, S&M, bondage, amputees, geriatric, fat, ethnic, interracial, etc., to the mainstream hetero product and the enduringly popular gay videos. » Simplement dit, l'horreur normativise les corps alors que la pornographie se montre inclusive, et à force de chercher à la condamner, on finit bien souvent à en faire l'éloge.